Vous écoutez, on lit pour vous.
Des progrès et des reculs dans les inégalités entre les hommes et les femmes. Un texte de Chloé Bourquin, paru le 22 septembre 2025 dans la presse. Dans un nouveau rapport publié en septembre 2025, ONU Femmes dresse un portrait des inégalités entre les hommes et les femmes à travers le monde. Si certains progrès ont été réalisés, d'autres indicateurs sont dans le rouge, s'alarme l'agence. Des progrès dans plusieurs domaines. De nombreux progrès ont été réalisés dans les dernières années pour l'égalité des genres, selon ce rapport intitulé « Portrait de l'égalité des sexes 2025 ». Les filles ont aujourd'hui plus de chances que jamais de terminer leur scolarité. Et la mortalité maternelle a diminué de près de 40 % dans le monde entre 2000 et 2023. Dans les pays ayant mis en place des mesures pour lutter contre la violence, le taux de violence exercé par un partenaire est 2,5 fois moins élevé qu'ailleurs. Et au cours des 5 dernières années, près de 100 pays ont abrogé des lois discriminatoires ou adopté de nouvelles lois pour jeter les bases d'un cadre légal favorisant l'égalité. Des reculs inquiétants et des efforts à accélérer. Le rapport souligne néanmoins des reculs inquiétants, notamment sur le plan des droits des femmes et des baisses de financement des initiatives en faveur de l'égalité. 10 % des femmes vivent dans une pauvreté extrême, un taux qui ne s'est pas amélioré depuis 2020. Et si les tendances actuelles se poursuivent, le monde comptera environ 351 millions de femmes et de filles en situation d'extrême pauvreté en 2030. Aujourd'hui, 676 millions de femmes et de filles vivent à proximité d'un conflit meurtrier, le chiffre le plus élevé depuis les années 1990. En 2024, on comptait 64 millions de femmes de plus que d'hommes en situation d'insécurité alimentaire. Et encore aujourd'hui, à l'échelle mondiale, seuls 27 % de femmes occupent des sièges parlementaires et 30 % ont des postes de direction. À ce rythme, la parité en matière de leadership ne sera atteinte que dans près d'un siècle, indique le rapport. Des objectifs en voie d'être manqués. En septembre 2015, les Nations unies ont adopté le Programme de développement durable à l'horizon 2030, qui s'articule autour de 17 objectifs, de 169 cibles et de plus de 230 indicateurs. L'édition 2025 du rapport montre qu'à 5 ans de l'échéance, le monde est en passe de manquer tous les indicateurs portant sur l'égalité des sexes. J'encourage tous les dirigeants et toutes les dirigeantes à prendre des engagements et à investir dans ce sens et à choisir un monde où les droits des femmes sont garantis à grande échelle et où les bénéfices profitent à toutes et tous, a indiqué la directrice exécutive d'ONU Femmes, Sima Baous, par voie de communiqué. Des mesures à prendre. Le rapport cible 6 mesures qui pourraient être prises pour renverser la tendance. L'inclusion numérique, l'élimination de la pauvreté, la protection contre la violence, l'égalité dans la prise de décision, la paix et la sécurité, ainsi que la justice climatique. En investissant 233 000 milliards de dollars d'ici 2050 dans ces mesures, les gouvernements pourraient bénéficier d'une retombée de 342 000 milliards dans l'économie mondiale, calcule le rapport. Lorsque l'égalité des sexes est une priorité, elle propulse les sociétés et les économies vers l'avant, a déclaré Sima Baous, directrice exécutive d'ONU Femmes. Encore des progrès à faire chez nous. Même au Québec et au Canada, bien que nous vivions dans une société démocratique, l'égalité entre les hommes et les femmes n'est pas encore acquise, loin de là. Il est troublant de voir qu'on ne se démarque pas plus du reste du monde dans certains domaines, indique Nathalie Gay, directrice générale de l'Observatoire québécois des inégalités, en entrevue avec la presse. Par exemple, la représentation des femmes en politique n'atteint pas la parité. Aux élections municipales de 2021, moins du quart des personnes élues à la mairie étaient des femmes. Bien que les femmes aient décroché lors des élections provinciales de 2022 46 % des sièges à l'Assemblée nationale, elles peinent à atteindre la parité au sein du gouvernement. Depuis le dernier remaniement au Conseil des ministres, seul un siège sur trois est occupé par une femme. Même constat à la Chambre des communes, où l'on compte 30 % de femmes depuis les élections du printemps dernier. Ça prendra encore 12 élections avant qu'on arrive à la parité, dit en soupirant Nathalie Gay. C'était « Des progrès et des reculs dans les inégalités entre les hommes et les femmes ». Un texte de Chloé Bourquin, paru le 22 septembre 2025 dans la presse.
« plaidoyer pour l'enseignement de la non-fiction. Un texte d'Éric Deguire, paru le 27 août 2025 dans La Presse. Constatant l'omniprésence du roman dans l'enseignement du français, Éric Deguire, enseignant et essayiste, suggère de donner aussi une place à la littérature des faits, que ce soit à travers la lecture des biographies ou de textes d'opinion, ou même à travers la rédaction de récits personnels de nature autobiographique. En cette rentrée scolaire, je tiens à présenter un plaidoyer pour l'enseignement des différentes formes de non-fiction québécoise dont les auteurs et auteures réussissent à caractériser notre présent par des réflexions individuelles et collectives. On peut aussi constater la popularité croissante du genre en rappelant certaines collections à succès qui mettent en valeur l'essai et la non-fiction, telles que la collection 1, 2, 3 de Québec-Amérique et Documents d'atelier 10. En évolution constante, la non-fiction continue à susciter des débats dans les cercles littéraires, mais comprend certainement un grand nombre de sous-catégories. L'essai personnel, les discours, les témoignages, les faits divers, les textes d'opinion, les biographies, les autobiographies, les mémoires et le journalisme de fond. La non-fiction rejoint aussi l'essai, qu'on peut considérer comme une prose d'idées, une littérature du réel ou bien une littérature des faits. En tant qu'enseignant de français à la formation générale des adultes, je constate que le roman maintient encore son règne dans les corpus, alors que le programme ministériel impose ce type d'œuvre aux évaluations de 4e et 5e secondaire. Périodiquement, un débat sur l'enseignement des œuvres littéraires à l'école secondaire est lancé dans l'actualité québécoise, mais il est presque toujours question de romans. La poésie et le théâtre reçoivent quelques mentions, mais la non-fiction brille par son absence. Une réflexion est entamée aux États-Unis sur la pertinence de l'enseignement de ce genre, pourtant si populaire dans le grand public. Dans un article produit par le National Council of Teachers of English en 2023, on affirme que la non-fiction est sous-représentée dans le système d'enseignement primaire et secondaire, alors qu'il a été observé que ce genre est apprécié dès l'enfance. Les jeunes ont besoin d'adultes qui favorisent l'accès à des livres de non-fiction de grande qualité, car ceux-ci reconnaissent le pouvoir de ces ouvrages à enthousiasmer et inspirer, tout en informant les lecteurs de tous âges. Avec tout ce que la non-fiction a à offrir aux jeunes, en tant que lecteurs et penseurs, elle devrait jouer un rôle beaucoup plus important dans leur vie de lecture et d'apprentissage, à l'école comme en dehors. Qu'il soit question d'un fait divers transmis avec brio, d'une biographie qui met en scène la vie d'un athlète ou d'un artiste, ou bien d'un essai personnel dans lequel l'auteur communique directement avec son lectorat de manière authentique, cette littérature des faits renferme le potentiel de développer la culture générale et l'humanité de la jeunesse québécoise tout en améliorant ses compétences en lecture, mais aussi en écriture. Une écriture au jeu et un potentiel pédagogique sous-exploité. Une non-fiction exceptionnelle devrait servir de modèle d'écriture pour les élèves. C'est bien ce qu'a affirmé le National Council of Teachers of English dans son propre plaidoyer. Dans une large part, les textes de non-fiction prennent la forme de témoignages ou de récits vécus. Ce type d'écriture demeure une avenue pédagogique sous-exploitée, alors que cela peut permettre un développement marqué des compétences des élèves. Les évaluations en écriture prennent généralement deux orientations. Le texte narratif, où le récit est généralement fictif et imaginé, ou bien le texte argumentatif ou informatif, qui doit être le produit d'une recherche. Et s'il existait une troisième voie? En troisième secondaire, à la formation générale des adultes, une des évaluations encourage les élèves à raconter un souvenir dans le cadre d'un écrit. Cela oblige l'élève à puiser dans son vécu et à en faire un récit. Si l'on se fie aux paramètres officiels de l'épreuve, l'adulte y livre de l'information ou partage ses sentiments et émotions à propos d'un événement marquant, par exemple un déménagement, un deuil ou une maladie grave, ou encore d'une personne qu'il admire ou qu'il juge intéressante. Cela permet aux élèves de s'adonner à des rédactions sur des sujets qui les rejoignent et sert aussi à décourager l'utilisation d'une intelligence artificielle pour rédiger leurs textes. L'apprenant peut ainsi s'engager à la première personne et se sentir valorisé alors qu'il partage un écrit qui lui est cher. À l'école secondaire, mais aussi dans le cadre de la recherche universitaire, l'écriture au « je » demeure un peu tabou. Pour ma part, j'encourage mes étudiants à assumer leurs propos avec fierté, en prenant la parole à la première personne du singulier. En évolution constante, la non-fiction est une forme dynamique dont le potentiel pédagogique demeure sous-exploité. Un enseignement plus dynamique d'une littérature du réel peut contribuer aux compétences en lecture et en écriture dans les salles de classe du Québec, tout en soutenant le développement humain et citoyen. C'était « Plaidoyer pour l'enseignement de la non-fiction », un texte d'Éric Deguire, paru le 27 août 2025 dans La Presse.
Et si votre téléphone rendait les intersections plus sûres pour les personnes handicapées? Un texte de Pierre-Olivier Nadeau, paru le 20 octobre sur Radio-Canada Info. La ville de Regina lance une nouvelle application pour sécuriser la traversée de 9 intersections dans son centre-ville pour les piétons en situation de handicap. Le projet devrait s'étendre à toutes les intersections du secteur d'ici la fin de l'année et ailleurs dans la ville dans les prochaines années. PEDAPP, P-E-D-A-P-P, offre à ses utilisateurs des instructions verbales, que ce soit pour annoncer aux piétons qu'ils s'approchent de l'une des intersections compatibles ou pour annoncer combien de temps il lui reste pour traverser. Le téléphone peut également offrir ces informations en vibrant pour les personnes malentendantes ou sourdes. L'application mobile permet également d'activer le bouton d'appel de feu pour piétons directement sur le téléphone. Toutes ces fonctions doivent marcher même si la température atteint moins 35 degrés Celsius, d'après un responsable de Regina. PEDAPP a été développé en partenariat avec l'Institut national canadien pour les aveugles, INCA. Ashley Nemeth, conseillère en accessibilité à la ville de Regina, explique que le fait d'appuyer sur le bouton d'appel de feu pour piétons peut représenter un défi pour les personnes en situation de handicap, comme elle. « Je dois avoir mon chien ou utiliser ma canne blanche pour essayer de trouver ce bouton, ce qui m'oblige à dévier de ma trajectoire », indique Ashley Nemeth. Ensuite, une fois que j'ai appuyé sur le bouton, je dois faire demi-tour, retrouver le trottoir et, avec un peu de chance, m'aligner dans la bonne direction pour traverser la rue tout droit, ce qui est toujours un défi. Ashley Nemeth affirme qu'elle s'attend à ce que PEDAPP aide de nombreuses personnes qui ont de la difficulté à traverser une rue même lorsque la circulation est dense. La ville travaille sur 60 projets à long terme visant à améliorer l'accessibilité et la sécurité de ses résidents. Mohamed Ali et Lisa Telfer de l'Institut national canadien pour les aveugles affirment que leurs clients tireront un bénéfice de la nouvelle application mobile PED App. Mohamed Ali, responsable de la sensibilisation de l'INCA, a essayé l'application mobile avant qu'elle soit offerte au grand public. Il avoue que, au début, il s'est beaucoup méfié de certaines fonctionnalités avant d'être rassuré. « J'ai été un peu sceptique quant à son utilité », ajoute-t-il. Cependant, il a été surpris de voir à quel point l'application mobile crée un environnement plus sécuritaire et accessible. Je peux imaginer que l'application mobile sera très utile en hiver. Je suis donc très enthousiaste pour cette application mobile, affirme Mohamed Ali, responsable de la sensibilisation, INCA. Le responsable municipal de l'ingénierie de la circulation, Vikas Ravada, indique que Regina envisage d'étendre les zones où cette application pourra être utilisée dans la ville. C'était « Et si votre téléphone rendait les intersections plus sûres pour les personnes handicapées? » Un texte de Pierre-Olivier Nadeau, paru le 20 octobre sur Radio-Canada Info.
Mettre en pratique le biorégionalisme dans le Bas-Saint-Laurent, un texte d'Alexis Riopel, paru le 4 octobre 2025 dans Le Devoir. Dans le Bas-Saint-Laurent, dans la région de Rimouski, un petit réseau informel d'agriculture écologique, anticapitaliste et régionaliste prend forme. Des liens étroits unissent ces paysans solidaires qui oscillent entre une volonté de s'extraire du système et celle de le réinventer. Ces dernières semaines, nous sommes allés à leur rencontre. Mélodie Anderson et ses collègues maraîchers n'ont pas chômé l'été dernier. Ils ont dû non seulement cultiver les légumes de la dérive vendus au kiosque libre-service et au marché public de Rimouski, mais aussi remplir une mission spéciale, nourrir les 175 invités du campus populaire Terre et Liberté, un événement de 3 jours sur la décroissance qui a eu lieu en juillet dans la ferme et qui a rassemblé des participants venus de partout au Québec. 2 mois plus tard, la maraîchère de 26 ans fait visiter les lieux. Les discussions et les repas se déroulaient en plein air, à 2 pas des champs, ou bien sous un grand abri surnommé le cercueil du capitalisme. Tourbillonnant au pied de Mélodie, le chien Varek veut qu'on lui lance le ballon. Ce matin, 3 fermiers sont à l'œuvre. Ils transplantent les dernières pousses de la saison. Du chou à l'okra, en passant par les laitues et les poivrons, une ribambelle de légumes émerge du sol. Décroître, et puis quoi ensuite? Les gens de la dérive ont une réponse. Élaborer une économie en phase avec le territoire local et ses spécificités. Un concept nommé biorégionalisme. On croit à une forme d'organisation décentralisée où il y aurait une espèce de fédération des régions qui arrive finalement à changer les choses ensemble, explique Mélodie, originaire des Laurentides et qui s'est accrochée les pieds à Rimouski, séduite par l'aventure paysanne de ce coin du Bas-Saint-Laurent. Dans une biorégion, on recherche une certaine autonomie alimentaire, mais pas question de faire pousser des bananes en serre. Il s'agit plutôt de comprendre ce que le territoire peut offrir de meilleur et d'en profiter. Le petit réseau solidaire de Rimouski s'efforce de mettre ce principe en application de manière très concrète. En outre, il adhère à l'idée d'organiser la production agroalimentaire pour tendre vers l'autonomie avec moins d'efforts. La nébuleuse de paysans développe une planification agro-écologique régionale, souligne Gabriel Leblanc, cofondateur de La Dérive. Selon cette vision, l'apport de chaque agriculteur doit être complémentaire à ce qu'offrent les autres. Rien ne sert que tout le monde fasse de la carotte. Penser l'agroécologie ainsi, c'est une lutte contre l'individualisme, croit le jeune homme, qui a joué un rôle de premier plan dans l'organisation du campus Terre et Liberté. Noémie Bureau-Civil, une partisane de la décroissance qui est dans le conseil d'administration de La Dérive, figure aussi parmi les instigateurs de l'événement. À titre de chercheuse indépendante, elle étudie le potentiel biorégional du Bic et de Saint-Valérien où elle habite. Ce qu'elle voit avec La Dérive, le père Canuel, les jaseurs des cèdres et les autres petits producteurs du coin, c'est le début d'un véritable modèle alternatif où prévaut une forte solidarité. Ils font du troc, ça les rend beaucoup plus robustes, dit celle qui estime que ce petit réseau a vraiment quelque chose d'unique au Québec. Nourrir tout le monde. Démarrer un projet agricole atypique se heurte souvent à un sacré défi, celui de l'accès à la terre. À cet égard, la dérive a eu de la chance. La ferme où travaillaient cette saison une quinzaine de personnes, dont des bénévoles, est établie à Chagetère, une fiducie d'utilité sociale agroécologique. Fondée par le philosophe et écrivain Jean Bédard et sa conjointe Marie-Hélène Langlais, qui voulait rendre la terre accessible à petit prix à ceux qui la cultivent dans le respect de l'environnement. La dérive exploite une quinzaine d'hectares, dont un hectare pour le maraîchage. Plus près de la route 132, moutons et chèvres broutent paisiblement. Leur rôle consiste surtout à faire du fumier pour remplacer les engrais de synthèse venus d'outre-mer. Dans la grange, Mélodie a assemblé un peu plus tôt ce matin des paniers de légumes pour le répit du passant, un organisme rimousquois qui héberge et nourrit les personnes démunies. La dérive se démène pour trouver des subventions et des dons financiers pour contribuer à des missions communautaires. D'autres fermes, comme celle du Vieux Véra, embarquent parfois dans le bateau. Il faut organiser des productions territoriales pour nourrir les gens d'une manière non classiste, c'est-à-dire sans exclure les personnes qui sont pauvres ni celles qui sont riches, dit Gabriel. On veut juste que tout le monde soit nourri, souligne le titulaire d'une maîtrise en sciences de l'environnement qui travaille durant la saison hivernale pour un organisme de gestion de données scientifiques. Pizza hyper locale. Quelques jours plus tard, dans une érablière de Saint-Valérien, deux groupes de musique, Laveuse Sécheuse et Mop, achèvent leur test de son. La scène est logée dans la cabane à bouilloire qui n'a que trois murs. Charles-Antoine Guimond-Leblanc, éleveur de porc et faiseur de sirop, s'apprête à recevoir une centaine d'invités pour un party assez spécial où on servira de la pizza aux ingrédients ultra locaux. « Ça fait deux semaines qu'on travaille comme des fous pour préparer ça », lance-t-il, courant d'un côté à l'autre. Peu à peu, amis de proche ou de loin déboulent dans la forêt balrancienne. Maraîchers, éleveurs, transformateurs, tout l'escadron solidaire de Rimouski, du Bic et de Saint-Valérien répond présent. Le producteur de tempeh Pierre-Olivier Canuel, un ami d'enfance de Charles-Antoine, et ses six enfants arrivent dans un tourbillon. Le maraîcher Gabriel Leblanc, qui est d'ailleurs le cousin de l'hôte, se pointe le nez et ouvre une bière. Ce sont les délices de ces producteurs qu'on mangera ce soir dans l'érablière, comme les shiitake des jaseurs des cèdres ou encore les tomates de la dérive. Une sorte de festin du village des Gaulois, mais avec du porc effiloché plutôt que du sanglier. Une célébration d'une biorégion dont le potentiel est encore à peine exploité. Il y a vraiment quelque chose de spécial qui se passe dans la région ici, remarque la séricultrice Noémie Daris, tout près du feu. C'était « Mettre en pratique le biorégionalisme dans le Bas-Saint-Laurent », un texte d'Alexis Riopel, paru le 4 octobre 2025 dans Le Devoir.
Histoire méconnue des femmes autochtones. Un texte de Paul-François Sylvestre, paru le 8 mars 2023 dans l'Express.ca de Toronto. Les thèmes de prédilection de Karine Bouquillon sont le cheminement intérieur de l'être humain et l'histoire du Canada d'avant la colonisation. Son premier roman, Souviens-toi des femmes de Turtle Island, se penche sur la place unique que les femmes autochtones ont occupée dans notre société avant l'arrivée des Blancs. Petite précision au départ. L'île de la Tortue est le nom donné par certains peuples autochtones à la Terre et en particulier à l'Amérique du Nord. Autre info. En 2019, Karine Bouquillon a publié son roman à compte d'auteur sous le titre « Les baleines pleurent aussi ». Le roman remanié avec son nouveau titre est maintenant diffusé par les éditions Terre d'accueil, une maison locale. Dans la peau d'une Iroquoise. La protagoniste ici est Gilcon Sassé Dawa, alias Jiki, une écrivaine d'origine iroquoise qui publie un livre intitulé « La place de la femme dans les sociétés amérindiennes, un pouvoir ignoré ». Pierre Dumont. Chroniqueur et reporter à la Gazette de Toronto, s'intéresse à cet ouvrage et à son autrice. Il est fasciné par cette femme qui fait fonctionner son cœur et sa tête plutôt que son décolleté et ses fesses. L'histoire se passe à Toronto, dont la francophonie est bariolée et multicolore. Tout le monde a des mœurs et des accents différents. Jiki aime la ville reine car elle y voit un microcosme d'un monde idéal, un endroit qui ne tolère pas l'irrespect de la différence. Rétablir la vérité. Jiki écrit pour que la tradition orale dans sa culture ne soit pas perdue. Elle est animée par ce besoin vital de se réapproprier une mémoire pour que cette dernière ne soit pas oubliée, niée, déformée. Pierre Dumont accepte de faire la promotion du livre écrit par une Amérindienne sur le rôle prépondérant des femmes dans une société égalitaire. Pour lui, cet ouvrage contient une volonté de rétablir la vérité, de connecter le lecteur avec la force des Premières Nations et surtout, de réhabiliter ces femmes. Jiki veut que le mensonge cesse d'occulter la vérité. Nous avons survécu aux multiples tentatives d'extermination et d'assimilation. Génocide contre les Premières Nations. Avec des références aux infâmes pensionnats autochtones, le roman rappelle que les Premières Nations ont douloureusement émergé d'un holocauste physique, spirituel, mental et culturel qui a bien failli les éradiquer complètement. L'Église catholique romaine et d'autres églises chrétiennes, souligne-t-on, devraient être poursuivies pour crimes contre l'humanité. Ces confessions religieuses, avec l'appui de politiciens véreux vendus au pouvoir économique, ont les mains tachées du sang de millions de femmes, hommes et enfants. Elles surpassent Hitler dans le domaine de l'horreur. Femmes libres et fortes. Karine Bouquillon nous offre une version peu connue de notre histoire. Selon elle, les colons qui ont mis les pieds sur notre continent n'ont pas digéré de voir des femmes libres, fortes, respectées, occuper des rôles clés dans tous les rouages de leur communauté respective. Elles savaient prendre des décisions et exercer leurs talents, pas juste en tant que guérisseuses et agricultrices. Souviens-toi des femmes de Turtle Island est un roman qui réveille la mémoire, qui la secoue vigoureusement pour nous amener à mieux connaître notre histoire. On voit comment des femmes ont été porteuses de valeurs en perdition, des valeurs de respect, de compassion, d'attention à l'autre et d'écoute. C'était « Histoire méconnue des femmes autochtones », un texte de Paul-François Sylvestre, paru le 8 mars 2023 dans l'Express.ca de Toronto.